Tournez avec moi à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14. C'est l'Ancien Testament. Il va le tuer. Ouais. Ok. Ézéchiel 14, versets 12 à 14, et puis versets 22 et 23. Puis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en commettant quelque infidélité, et que j'étends ma main contre lui en lui retranchant le pain qui soutient, en lui envoyant la famine et en faisant disparaître homme et bête de son sein, et qu'il s'y trouva ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur vie par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Et juste en passant, en verset 16, il fait constat à nouveau à ces trois hommes-là, et à nouveau en verset 18 et verset 20, et puis en verset 22. Toutefois, il y aura un reste, quelques échappés, des fils et des filles qu'on en fera sortir. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez des malheurs que j'ai fait tomber sur Jérusalem et de tous ceux qui lui est advenu. Ils vous consoleront quand vous aurez vu leur conduite et leurs actions. Alors, vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je lui ai fait tout ce que je lui aurais fait, dit le Seigneur, l'Éternel. Prions. Père Céleste, à nouveau, nous venons devant toi pour te demander tout simplement l'aide à comprendre les principes de ta parole sainte. Nous avons tous besoin d'apprendre davantage. Et nous avons tous besoin de mettre en pratique les choses que nous avons apprises. Seigneur, nous prions que tu nous aides maintenant à ouvrir notre esprit et notre cœur pour recevoir ta parole sainte, pour que nous puissions glorifier ton Fils en toutes choses. Au nom de Christ. Amen.
Amen.
S'il y a une chose commune avec les enfants, c'est que les petits-enfants aiment être vus par leurs parents. Par les autres, presque n'importe quel autre, un enfant veut attirer l'attention des autres. S'il y a une deuxième chose commune, c'est qu'ils n'aiment absolument pas être ignorés. Vous laissez un enfant seul et l'enfant ne sera pas du tout content. Tant qu'ils ont l'attention nécessaire, tout est calme, paisible, tranquille. Mais le moment même qu'ils n'ont plus ce qu'ils veulent, là, il y a un problème. Ils sont capables de piquer une colère horrible, faire toutes sortes de bruit, casser toutes choses autour, pour à nouveau attirer l'attention. Malheureusement, ces excès de colère ne sont pas bien vus, mais les petits ne comprennent pas encore que ces choses ne sont pas acceptables. Il faut un peu de maturité pour comprendre que l'attention à tout prix n'est pas bien. Il faut faire ce qui est juste et correct. Il faut un peu de maturité pour que les enfants apprennent que c'est mieux d'être bien vu que d'être mal vu. Et c'est en ce moment-là qu'il commence à chercher quoi faire pour être bien vu. Le tout se repose sur l'impression qu'ils ont de ce que veulent les parents. Et ils vont faire ce qu'ils aperçoivent comme la chose nécessaire, la chose qui va plaire à maman, à papa, aux autres. On dit que le plus pain des jeunes, des rebelles, font ce qu'ils font pour attirer l'attention des parents, des responsables, pour avoir l'attention qui n'est pas là habituellement. Les psychologues disent que les jeunes rebelles font toutes sortes de choses, pas vraiment, au moins au début, parce qu'ils aiment casser toutes choses, mais parce qu'ils cherchent les limites dans lesquelles ils peuvent vivre en paix. Une espèce de frontière autour et on est tranquille dedans. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il vous faut pour être bien vu de Dieu? C'est une chose à être bien vu par les gens de notre monde, c'est tout à fait une autre chose pour être bien vu de Dieu. Est-ce que Dieu prend note de ce que vous faites? Quand il voit ce que vous faites, est-ce qu'il est content avec ce qu'il voit dans votre vie? Est-ce que nous vivons assez fidèlement pour être cités comme un exemple de ce qu'il y a de bon, de bien, de correct dans l'Église de Jésus-Christ? Je ne demande pas pour promouvoir un sens de valeur déréglée chez quelqu'un, mais pour nous aider à penser à ce que Dieu pense à nous, pour que Dieu puisse parler de nous comme il a parlé de ces trois hommes. Juste pour un instant, regardez avec moi Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Un verset que je sais tout à fait bien connu. J'ai dit chapitre 12. Chapitre 4, verset 12. Chapitre 4, verset 12, excuse-moi. Vous savez que j'ai un avantage que les autres n'ont pas. Hein? Chaque fois quelque chose, que je fais quelque chose de mal, je dis, ah, c'est la maladie, c'est ça. Je peux toujours dire, c'est ça. Okay. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous lisons, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Est-ce que ces paroles sont véritablement entrées dans notre être? Est-ce que nous savons véritablement ce que ça dit? la parole de Dieu qui juge même nos pensées et les intentions de notre cœur. Si Dieu voit tout, nous devons chercher ce qui manque dans notre vie pour plaire. So, le discernement de Dieu reste le même aujourd'hui que c'était dans le passé quand il a donné ses versets. Il n'a pas changé, il n'a pas diminué le sens de sa parole, c'est toujours exactement le même. Donc, la parole de Dieu est toujours aussi vivante, aussi efficace, aussi puissante, aussi coupante que c'était il y a 2000 ans. Ça n'a pas changé. Les leçons que Dieu a donné dans sa parole sont toujours aussi efficaces aujourd'hui qu'ils étaient dans le passé. Ce que Dieu demande de vous, de moi, ces choses ne changent pas. Si la société change, tant pis pour la société, la parole de Dieu, qui est notre livre par excellence, n'a pas changé. Donc nous ne pouvons pas dire que, oh, tout le monde fait. S'il y a une phrase que je n'aime pas du tout, c'est cette phrase-là. Parce que c'est utilisé pour s'excuser dans absolument n'importe quelle situation. Les jeunes décident de vivre ensemble avant le mariage, mais tout le monde fait. On boit de l'alcool, mais tout le monde fait. On triche, tout le monde fait. On triche sur les impôts, mais tout le monde fait. Dieu n'a pas changé. Ce qui est formidable, c'est que Dieu nous donne, dans sa parole, les exemples à quoi? À suivre et à éviter. Hein? C'est bien que Dieu nous a donné quelques exemples à éviter. Comme ça, les autres ne peuvent pas dire, moi, j'ai jamais entendu ça. On peut montrer qu'il y a des gens là qui ont fait des bêtises et Dieu dit non. Et dans le passage en Ézéchiel, Dieu a constaté que ces trois hommes étaient des exemples. Ces trois hommes étaient trois hommes. Bon, si on vous demande d'écrire les noms des trois personnes les plus remarquables dans la parole de Dieu, autre que Jésus-Christ lui-même, vous marquerez qui? Je suppose que, pour la plupart, David serait là. David est un homme d'après le cœur de Dieu. On ne peut pas minimiser ça. Abraham, le père des fidèles. Il y a plusieurs autres dans la parole de Dieu, des personnes incroyables. C'est évident, c'est l'Ancien Testament, donc il n'allait pas mettre l'apôtre Paul. Mais si c'était dans le Nouveau Testament, on aurait dit l'apôtre Paul. Et ici, Dieu a choisi trois personnes. Daniel serait probablement parmi la liste de beaucoup, parce que Daniel est une personne incroyable. Ou Joseph, par exemple. Ah, les leçons que nous pouvons tirer de la vie de Joseph sont absolument magnifiques. Mais Dieu n'a pas choisi ni David, ni Joseph. Il n'a pas choisi Abraham. Il a choisi Noé et Daniel et Job. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Noé, de Daniel et de Job qui était si remarquable que que Dieu dit, voilà les hommes à suivre. Mais, en vérité, si vous lisez tout le passage, là, vous direz que, même avec un exemple comme ça, les gens s'égarent quand même. Pasteur Dodd l'a parlé il y a quelques instants de des gens qui sont venus et repartent. Parfois avec les raisons bidons, les excuses, elles ne sont pas scripturement valables. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans, et je ne demande pas, je ne demande à personne à essayer de juger quelqu'un d'autre dans ce sens. Nous devons tous interroger notre propre cœur. Est-ce que je suis là? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Comme il y avait quelque chose dans la vie d'une de ces autres personnes qui n'est pas resté. Parce que, bon, nous savons tous, il y a des hommes, des femmes, ici en France, qui étaient dans l'œuvre dans le passé. Les Français qui étaient à l'œuvre pour le Seigneur dans le passé, et aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils ont trouvé une excuse pour ne plus suivre le Seigneur. Noé. D'abord, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Verset 5. Et l'Éternel vit que le malice de l'homme était grand sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je trouve cette phrase magnifique. D'abord parce que ça nous montre que le fait d'élire, en quelque sorte, était strictement par la grâce de Dieu. Noé ne faisait pas le porte-à-porte 5 heures par semaine pour mériter son salut. Il ne pratiquait rien d'autre, ce que nous pouvons lire, que la justice de Dieu. La justice qu'il a appris, probablement, des noms, les autres avant lui. Verset 11, même chapitre. Et la terre était corrompue devant Dieu. Et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Nous savons que Dieu ne va pas détruire la terre comme à nouveau, comme il a fait dans les jours de Noé. Mais toute autre chose là, c'est comme aujourd'hui. Hein? Corrompu, la méchanceté, la malice constamment autour de nous, qui veut dire que nous aujourd'hui, nous avons les personnes à atteindre exactement comme Noé avait des gens à atteindre pendant ces jours. Il devait prêcher aux gens corrompus. Ils devaient vivre à côté des personnes qui vivaient dans l'immoralité. C'est comme ça chez nous, n'est-ce pas? ça n'a pas changé. La corruption de l'homme, de Genèse chapitre 6, c'était à cause de notre nature pécheresse, et la nature pécheresse est toujours là. Malheureusement. S'il y a une chose formidable au sujet de notre bienheureuse espérance, c'est que nous serons en ce moment-là libérés de la nature pécheresse.
Amen.
Noé était un croyant. Il croyait Dieu. Et Dieu savait qu'il croyait Dieu. Il était un croyant, mais pas n'importe quel croyant, il était un croyant pratiquant. Il y a un petit traité qui était sorti il y a plusieurs années maintenant. Croyant, mais pas pratiquant. C'était bien. Hein? Si on croit vraiment, on va pratiquer. Il y a beaucoup qui se disent croyants, qui ne pratiquent plus, s'ils n'ont jamais pratiqué. Mais Noé était un croyant pratiquant, mais pas n'importe comment. Noé était obligé de pratiquer ce qu'il croyait avec une pression que nous ne connaissons pas. Imaginez d'avoir la pression sociale de Noé. Nous sommes quoi, 15 ans, 20 ans ici? Noé n'avait que 8. Avec lui dedans. Personne d'autre autour de lui croyait ce qu'il croyait. Et sûrement les autres ont dit, mais personne ne croit comme ça maintenant. Les autres parlaient différemment que Noé. Oh, mais Noé, les autres ne parlent plus comme ça. Noé vivait une vie pure. Et les autres, absolument pas. Mais Noé, vous savez, tout le monde le fait, hein? Et tout ce que Noé savait faire était de continuer à faire ce qui était juste. De ce que nous avons ici, en Genèse chapitre 6, chapitre 7, Noé n'a jamais dévié de sa mode de vie. Il est resté fidèle. Noé était un croyant pratiquant, il était aussi un travailleur croyant. En Hébreux chapitre 11, verset 7, ça parle de Noé en étant le fait qu'il a construit l'arche. Il a dû construire l'arche quand les autres ne voyaient pas l'utilité, ne croyaient pas à la venue du déluge, et il a continué à taper le marteau quand même. Hein. Il n'a jamais cessé de travailler. Mais il n'a jamais cessé de croire pendant qu'il travaillait. Ce n'est pas pour lui une œuvre pour gagner, mériter le ciel, c'était dans l'obéissance à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, selon la Bible, tout en travaillant, il témoignait. Il prêchait pendant tout le temps de la construction de l'arche, il prêchait la parole de Dieu. Quelque chose d'intéressant au sujet de son travail. Deux choses très importantes que nous devons saisir. Il croyait que Dieu pouvait faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Est-ce que nous croyons que Dieu peut faire ce qu'il a promis? Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu va faire
ce qu'il a dit. C'est une chose à dire, oui, Dieu est capable, mais pour aller le petit pas de plus en disant que Dieu va le faire et de vivre en tant que tel, Noé, un témoin, travaillant constamment. Imaginez la position de Noé. Voici un homme, sa femme, trois fils, trois belles filles, et Dieu avait annoncé que la fin de toute chair est pour bientôt. Bientôt. Noé, je veux que tu construises une arche. Et dans cette arche, nous allons sauvegarder les paires d'animaux, sept paires pour certains, pour que la terre soit repeuplée après. Je crois que si pendant les 120 ans que Noé prêchait, pendant la construction de l'arche, si Noé avait réussi de gagner quelques voisins, il aurait eu assez de place dans l'arche pour ses amis. N'est-ce pas? Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu d'amour. Il veut que tout le monde soit sauvé. Donc, il a prévu pas seulement l'arche pour sauver Noé et sa famille et tous ses animaux, mais aussi les autres convertis éventuels. Mais, pendant la construction de l'arche, les côtés sont montés, les planchers mis, les niveaux mis dedans, Noé continuait à prêcher, avec la connaissance que bientôt la construction serait terminée, Dieu allait envoyer le déluge et tous ces autres gens ici autour de moi qui écoutent ma voix vont mourir. Pas seulement quelques-uns, mais tous. Absolument tous. Ceux ou celles qui n'étaient pas dans l'arche allaient périr. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne littéralement la survie de toute l'humanité hors de la famille de Noé dans les mains de Noé. Il était responsable. Il était singulièrement responsable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a témoigné. Mais il n'a pas dit, bon, ce que tu dis là, c'est assez proche en toi. Oh, tant pis si les hôtels de Baal sont là. Oh, je serai gentil en toi. Ah ben, oui, moi je crois que Dieu est véritablement mon Dieu, mais bon, je ne veux pas être trop rigide, hein, vous voyez. Non, Noé est resté fidèle. Absolument, complètement fidèle. Noé, parmi autres choses, était un père pour ses fils, ses belles-filles. On peut imaginer la pression, pas seulement sur Noé, mais sur toute sa famille. Hein? Noé était le monsieur qui a décidé de construire un bateau pour flotter dans l'eau qui va tomber du ciel ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici. Hein? Hey Noé, tu vas mettre ça dans quel petit flacon d'eau ici, hein? Ridiculiser, exclu, certainement, par tous les autres autour, comme il a été détraqué. Mais Noé n'a jamais perdu de vue le besoin de ses voisins. La Bible dit qu'il a prêché jusqu'au bout. Prêché jusqu'au bout. Heureusement, Noé n'a jamais trouvé une excuse pour rentrer à la maison. Jamais. Il n'a jamais cessé de partager le danger de refuser le message que Dieu a envoyé. Jamais. Daniel, chapitre 1. Daniel est un autre homme dans la parole de Dieu qui est un homme exemplaire. Quelque chose d'intéressant dans la vie de Daniel, c'est que Daniel avait sa place pendant trois monarchies différentes. Trois. Et ce n'était pas une chose facile puisqu'il était étranger. Hein? Il n'était pas de chez eux et quand même il était élevé au-dessus des autres parce qu'il avait un sens moral de caractère et tout ça qui était largement au-dessus de tous ceux qui étaient autour de lui. Et bon, Daniel chapitre 1 verset 3 jusqu'au verset 5, nous lisons « Et le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël de leur âge royal et des principaux seigneurs quelques jeunes gens en qui il n'y avait aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, de Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le verset là est la clé pour la vie de Daniel, pour tout le livre. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Ce n'était pas uniquement du vin ou les aliments qui venaient de la table du roi, mais si vous regardez à travers le livre, c'était des petites choses offertes par le roi aux autres. Donc Daniel a dit non. Il est resté pur en toute chose. Daniel était ferme contre le souillure de sa chair, oui. Mais aussi, il était ferme contre l'idolâtrie de ses capteurs, ferme contre les hommes méchants et impies. Vous savez que dans l'histoire où le roi demandait l'interprétation sans même donner le rêve, le roi était prêt à tuer tout le monde. Daniel était le seul capable de le faire. Et il aurait pu dire, bon, constater que Daniel n'était même pas là quand le roi a dit d'aller tuer tout le monde. Et il aurait pu dire, bon, ils vont laisser tomber. Ces gens étaient prêts de me laisser mourir sans me donner l'occasion de parler. Tant pis pour eux, je donnerai l'interprétation et ils peuvent mourir. Non, il n'a pas fait ça. Il était ferme contre les lois méchantes et impies, mais dans sa fermeté, il avait un cœur de compassion. Daniel était constamment prêt d'aider les autres, même les autres qui ne voyaient pas toutes choses comme lui. Daniel voulait voir les autres convertis de leur propre gré et pas par force. Daniel lui-même, même quand les autres ont fait leur bêtise de piéger Daniel, Daniel n'a pas parlé contre les autres. Il est resté ferme, mais avec un cœur de compassion. Et nous connaissons l'histoire, au lieu de prendre le temps, nous connaissons l'histoire de Daniel chapitre 6, Daniel priait. Les autres disaient, Daniel a une vie tellement sainte que nous ne serons jamais capables de trouver quoi que ce soit contre Daniel, sauf si ça touche sur sa foi. Là aussi, on connaît l'histoire. Voilà. Oh, roi. Roi, vous êtes le meilleur. Il faut écrire une loi pour empêcher tous les autres à prier aux autres dieux, sauf toi, oh roi. Et le roi était assez orgueilleux pour l'avaler. Et il s'est piégé. Parce que vous lisez l'histoire, c'était lui qui était attristé. Daniel n'était pas confondu par toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à la maison, à genoux, devant la fenêtre grande ouverte, et il priait comme autrefois. Ah, oh, roi, vous vous rappelez de la loi que vous venez de signer? Ah oui, 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 tous les autres doivent prier seulement à moi pendant 30 jours. Ah, c'est bien ça. Et Daniel alors? Et je peux imaginer, parce que c'est de ce que nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel avait une place dans le cœur de ce roi. Et le roi savait que Daniel était un homme juste, que Daniel était un homme intègre. Et le moment, je peux imaginer le visage de ce roi, le moment qu'il a réalisé que ses propres paroles ont piégé quelqu'un qui était entièrement innocent. Entièrement innocent. Malgré le roi, Daniel priait. Daniel priait pour voir la direction de Dieu dans l'interprétation des rêves. Il priait afin de donner la direction de Dieu aux autres. Daniel priait habituellement. Pas seulement quand il lui fallait un roue de secours. Il priait tout le temps. Bon, je prends le temps de prier aujourd'hui parce que j'ai largement de temps. Un autre jour, quand les choses sont un peu plus pressées, je n'ai pas de temps aujourd'hui, je ne peux pas prier. Pas Daniel. Daniel priait chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Il était connu pour cela. Il priait même quand le monde se moquait de lui. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous sommes les témoins, travailleurs, fidèles comme Noé? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous avons des vies intègres comme Daniel et Job? Regardez avec moi dans le livre de Job, chapitre 1. Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 8. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Quelle accolade de la bouche de Dieu pour nous. Job. Vous pouvez lire toute l'histoire de Job. Quelque chose à garder dans l'esprit au sujet de Job. Toutes les difficultés que Job a subies, il a subi en moins qu'un an. Moins qu'un an. Job, d'abord, a adoré Dieu en tout temps. Il adorait Dieu au nom de ses enfants. Ça dit que les passages disent que Job offrait les offrandes devant Dieu sur le compte de ses enfants. Il a